le principe de l'arbre et de son fruit. Parce qu'on entend dire au sujet, même des politiciens par exemple, que Dieu, pour Dieu, peu importe ce que peut être leur vie personnelle, ce qu'on leur demande, c'est seulement d'accomplir correctement leur mandat. Donc un politicien ou un président de la République n'aurait donc aucun compte à rendre vis-à-vis de sa vie personnelle, aussi longtemps qu'il remplit son ministère. Parfois, dans les milieux évangéliques aussi, on se dit, ben, c'est pas si important ce sale caractère chronique, c'est pas si important ses défauts. Tout ce qui importe, c'est de travailler pour Christ. Or, un principe biblique, et donc de vie tout court, déclare, dans Luc 6, 43, 44, qu'il n'y a pas de bon arbre qui produise du fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit. Chaque arbre se reconnaît à son fruit, on ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. On connaît tous ces passages, n'est-ce pas? Mais il signifie en d'autres termes qu'un homme s'exprime dans les différents domaines de sa vie selon ce qu'il est. Ça signifie que ce qu'il est dans sa vie personnelle se répercute automatiquement dans sa vie spirituelle. Si un homme est adultère dans sa vie personnelle, il va se débrouiller d'être adultère à la cause qu'il sert. Et ça ne rate jamais. On se rend compte qu'un pasteur, il traite toujours son église comme il traite sa femme. C'est indissociable. Et je crois que le peuple que Dieu se choisit aujourd'hui pour marcher à ses côtés et devenir une armée puissante qui va changer le cours des choses sur cette terre, se caractérise par des personnes qui sont les mêmes à l'église qu'à la maison. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui fait dire souvent aux inconvertis, ces chrétiens ne sont pas sérieux? Souvent ils disent parce qu'ils font pas ce qu'ils disent. Ils font le contraire de ce qu'ils disent. Or l'esprit qui prévalait chez les Hébreux, c'était que si je disais quelque chose, je le faisais. L'esprit grec, c'est tout le contraire. Je déifie la parole. Ce sont les beaux parleurs celui qui a parlé le plus fort et qui a parlé le dernier, qui a raison. À la rigueur, peu importe quelle est sa vie personnelle, peu importe que sa parole soit suivie d'actes. Et dans notre pays, en France, nous sommes pas mal influencés par l'esprit grec. Mais ce que nous voulons, c'est être influencés par l'esprit de Dieu. C'est le sujet d'autres enseignements, un enseignement qui s'appelle « Il faut se dégraisser ». C'est un mot que j'ai inventé. Il y a un autre qui s'appelle « Il faut se débabyloniser ». Et un autre « Il faut se déromaniser ». Peut-être un jour, on aura l'occasion de faire plusieurs réunions sur ces thèmes-là. Pour que l'Église puisse voir la puissance de Dieu se manifester d'une manière glorieuse, eh bien, je crois qu'il y a pas mal d'états d'esprit auxquels on s'est habitué, que nous sommes appelés à mettre à la porte pour que le Saint-Esprit puisse prendre plus de place. Donc, bibliquement, le fruit ne peut se dissocier de l'arbre. Matthieu 12, 33, vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Donc, pour le Seigneur, la vie à l'église est indissociable de la vie chez soi. Si on ne vit rien de magique à la maison, il est important d'arrêter de jouer les supraspirituels à l'église. Moi, je dis souvent aux personnes, venez faire du bruit à l'église, alléluia, et soyez calme à la maison. Parfois, dans nos églises, on a des gens très calmes. Ils bougent pas. Lorsque tout le monde est en train de louer, crier, de rouler par terre, éventuellement, eux, ils bougent pas, mais quand ils arrivent à la maison, ils s'excitent après leurs enfants, ils s'excitent après leurs conjoints. Alors, je leur dis souvent, venez vous exciter ici, et soyez calmes à la maison. Amen. C'est vrai, on a tous une agressivité qu'on a besoin de déverser, qui n'est pas négative. Le tout, c'est de la déverser dans le bon sens. Amen. Nous sommes là pour la déverser contre l'adversaire. Nous sommes là pour mettre toute cette énergie au service de Dieu, de notre prochain dans le sens positif du terme. Et quand on le fait, ben, il nous reste plus d'énergie à exposer dans le sens négatif. Hein? Dans la vie avec Christ, c'est la vie tout court, c'est-à-dire la vie dans ses différents domaines. Je crois qu'il est important de réaliser que Dieu cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité, c'est-à-dire des gens pour qui adorer, ça se limite pas à ce temps qu'on a à lever les mains. Amen. Ou à chercher à rentrer dans une espèce de catalepsie. Et tant mieux si on peut. Alléluia. Mais ça se limite pas là. Une fois que j'ai fini, eh bien, je rentre à la maison et je continue à adorer Dieu. Je suis dans ma voiture et j'adore Dieu. Je regarde la télévision et je suis supposé adorer Dieu parce que toute ma vie est un culte que je rends à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de chercher à aimer Dieu de toute notre âme, notre pensée, notre cœur. C'est-à-dire que Dieu doit avoir une part dans toutes les affaires de notre vie. Amen. Et pas simplement le dimanche matin ou le mardi soir. C'est important ce qui se passe ici. Mais je n'apporterai ici que ce que j'ai acquis à la maison. Je n'apporterai rien d'autre ici que ce que j'ai acquis dans ma vie privée. Est-ce que vous me suivez? Parfois, souvent, on a vécu l'église où beaucoup de gens ont pris en considération que les réunions, c'était pour leur remonter les plombs de semaine en semaine. C'est-à-dire que c'était normal, ça allait mal toute la semaine et on revenait vite à l'église pour remonter les plombs. Mais l'idée, c'est qu'on arrive plein à l'église. Et quand on arrive tous pleins, il se produit une explosion. Mais lorsque 80% de l'église arrive vide et 20% arrive plein, la réunion se déroule. Les 20 participent à remplir ceux qui sont vides. Donc tout le monde ressort avec peu. Et donc l'idée, c'est qu'on arrive à avoir une majorité qui vient à l'église remplie. Et là, la vingtaine de personnes, il y en aura toujours, c'est tout à fait normal, qui a besoin d'être remplie, elle sera remplie sans problème. Donc, on doit avoir une nouvelle conception de l'église, une nouvelle conception de l'adoration. Vous n'amenez rien d'autre à l'église que ce que vous êtes à la maison. Si vous êtes un mauvais père et mari, vous ne vous pouvez pas être un bon pasteur. Si vous êtes une épouse peu intentionnée, vous ne pouvez être une diaconesse du mot service. Si tes enfants ont peur de toi, les gens ont peur de toi à l'église. Combien de pasteurs dont on a peur? La peur de recevoir son coup de fil, où tu étais? Si tu mens dans ta vie privée, tu vas mentir à l'église. Allons plus loin. Si vous êtes un mauvais amant, vous ne pouvez dépasser un certain degré d'efficacité dans votre service pour l'église. La Bible dit de rendre à son conjoint ce qu'on lui doit. Si on ne peut pas rendre à son conjoint ce qu'on lui doit, comment on va rendre aux gens dans l'église l'amour qu'on leur doit? Je suis devenu de plus en plus convaincu en méditant ces passages de l'Écriture qui parlent de l'arbre et du fruit, que c'est un principe. Et souvent, on veut travailler sur les fruits, mais c'est sur l'arbre. Parce que lorsqu'on travaille sur l'arbre, il va de plus en plus naturellement produire des bons fruits. Et dans la vie, c'est vrai qu'il y a les œuvres que nous sommes appelés à faire pour Dieu, mais il y a l'œuvre aussi que Dieu veut faire en nous. Et parfois, il faut se calmer et passer par des périodes où on se calme dans les œuvres qu'on fait pour Dieu, pour laisser le temps à Dieu de faire une œuvre en nous. Peut-être que vous passez par une période où vous dites, j'ai commencé à faire des choses pour le Seigneur, et puis tout a foiré, tout s'est arrêté, et là, je ne sers à rien. Non, tu peux utiliser ce temps pour que Dieu lui fasse son œuvre en toi. Et ça, c'est important. Et plus Dieu aura fait son œuvre en toi, plus tu pourras naturellement faire des œuvres pour lui. Là où souvent, Dieu est obligé de nous arrêter dans les œuvres qu'on fait pour lui, parce que il a besoin de faire une œuvre en nous. Vous me suivez? Vous me suivez? J'expliquais à quelqu'un dans notre assemblée qui disait recevoir des paroles de Dieu un peu space, hein, à l'église, qui voulait parfois expliquer les mystères de l'Apocalypse. Et moi, si vous pouvez m'expliquer tous les mystères de l'Apocalypse, je suis preneur, il n'y a pas de problème, ok? Mais à condition que vous puissiez aussi entendre Dieu pour les affaires de la vie de tous les jours. Et c'est ce que je lui ai dit, écoute, pendant un moment, tu vas essayer de plus rien recevoir pour l'église, hein? Mais tu vas continuer à être à l'écoute du Saint-Esprit et tu vas recevoir les directives de la part du Saint-Esprit pour savoir comment aimer ton conjoint, pour savoir à la rigueur comment faire ton ménage à la maison. Et après, sur cette base, tu viendras avec les grandes révélations. On est d'accord? Souvent, nous grillons les étapes. Nous recherchons à vivre dans une dimension qui nous dépasse et d'ailleurs que nous n'allons pas pouvoir porter avec nos épaules. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu veut que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. C'est dangereux de prospérer au-delà de la prospérité de notre âme. Il faut que ce soit en harmonie. Quand Dieu fait prospérer mon âme, ou je lui permets de le faire, il va développer un état d'esprit en moi, il va développer son amour, sa foi, son caractère, ce qui va me permettre de savoir gérer et porter la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? La bénédiction, ça doit se gérer. La bénédiction comporte une responsabilité. Moi, j'ai vu des gens être bénis, ils ont prié pour être bénis, je les ai vus recevoir des grosses sommes d'argent, Et le jour où ils recevaient ces sommes d'argent, on les voyait plus à l'église. Et ils retombaient dans le péché où ils allaient dépenser sans avoir même donné leur dîme, leur somme. Mieux aurait valu qu'ils soient jamais bénis. La bénédiction est devenue une occasion de chute parce qu'ils n'avaient pas la carrure spirituelle pour la porter. Leur âme n'était pas développée en rapport des œuvres qu'ils voulaient faire pour Dieu et de la bénédiction qu'ils voulaient à tout prix recevoir de Dieu. Rappelez-vous de cela. Être béni comporte une responsabilité. Je suis béni pour bénir. Donc quand je veux que Dieu me bénisse et me donne quelque chose d'important, il est bien que je commence à calculer ce que j'en ferai lorsque je le recevrai. Qui je pourrais bénir avec? C'est comme l'autorité. Vous savez, beaucoup de gens voudraient recevoir une autorité. Peut-être ils veulent juste avoir une belle carte fluo, là. Ça flash de tous les côtés. Pasteur un tel, ancien un tel. Mais l'autorité comporte une responsabilité. Je ne peux pas rechercher l'autorité sans rechercher aussi la responsabilité qui va avec l'autorité. Est-ce que vous me suivez? Merci. C'est un principe spirituel. Le principe de Dieu est que les choses commencent par la fidélité dans les petites choses, pour être apte à en gérer de plus grandes. Donc on connaît ces passages, Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alors peut-être que vous avez une vision de ce que Dieu veut faire dans votre vie, dans le futur, une vision à long terme, et alléluia. Peut-être que vous vous voyez en Afrique ou dans un pays comme cela, ou même en France, et vous vous voyez faire sortir des fauteuils roulants, les paralytiques par dizaines, par centaines. Et gloire à Dieu, je vous le souhaite à tous. Mais je pense pas que ça va démarrer par là. Avant de vous donner une vision à long terme, Dieu vous donnera des bribes de la vision à long terme, mais avant de vous faire rentrer pleinement dans la vision à long terme, il va toujours vous faire rentrer dans une vision à court terme. Et peut-être que tu es en train de demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Alors quand c'est que tu m'envoies dans ce champ missionnaire, faire sortir les paralytiques de leur chaise, et Dieu te donne une vision en réponse à ta prière, et tu vois un balai et une serpillière. Alors tu résistes à la vision arrière de moi, Satan! Et plus tu résistes, plus le balai et la serpillière se rapprochent. Parce que Dieu veut que tu apprennes à nettoyer la moquette, convenablement, la moquette bleue. Hey, quand on nous attend parler, avant de nettoyer le monde spirituel de ses démons. Beaucoup de gens, je crois, sont rentrés trop rapidement. Parce qu'ils n'ont pas été à l'écoute du Saint-Esprit. Ils n'ont pas respecté certaines règles. Oui, ils étaient appelés. Oui, ils étaient appelés à quelque chose de glorieux. Mais ils ont brûlé les étapes. Et ils se sont brûlés en brûlant les étapes. Et nous ne voulons pas être le ministère de l'été. Vous savez, comme certains chanteurs, ils font un tube, on en entend parler tout l'été, puis on n'entend plus parler d'eux. Et il y a le ministère de l'été aussi. Il y a l'église de l'été. On a l'impression qu'ils vont tout casser, et puis ils sont tout cassés au bout d'une année. Vous me suivez ce soir? Il est important d'avancer dans le bon ordre avec Dieu. Les petites filles ou petits garçons qui suivent là, hein? Super. Il est payé pour ça? Il te paye cher? Il te paye en chewing-gum, en quoi? Donc on commence bibliquement par Jérusalem pour finir jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8, vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, ça commence par là, dans toute la Judée et en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez, lorsque vous êtes un ministère itinérant, eh bien, c'est vite fait d'essayer d'aller vivre aux extrémités de la terre ce que vous n'arrivez pas à vivre dans votre propre église. D'où il est important de revenir régulièrement à la source. Et un jour, le Seigneur, il m'a dit, non, ce que tu es supposé faire, c'est creuser un puits profond dans l'église, où il y a vraiment de l'eau fraîche, et c'est cette eau fraîche que tu vas prendre et que tu vas mener à l'extérieur. Tu vas pas revenir frustré en disant, si je pouvais vivre dans mon église ce que je vis à l'extérieur. Dieu, il a prévu que ça fonctionne dans un autre sens. D'abord, Jérusalem. Beaucoup de personnes ont bâti leur vie, leur ministère, leur église en partant dans l'autre sens. Ce qui équivaut à bâtir un édifice sans fondement solide, à bâtir une maison en partant par le toit. Alors c'est vrai qu'il y a un toit dans une maison, mais quand on commence par le toit au lieu des fondations, ça fait bizarre. Ça commence bibliquement par soi pour pouvoir être en état d'aider concrètement les autres. Sans aller jusque-là, dans le travail de relation d'aide, par exemple, qu'on doit exercer à l'égard des autres, une personne qui a une mauvaise opinion d'elle-même ne peut efficacement aider les autres à découvrir la confiance en eux. Et nous avons beaucoup de gens blessés qui essayent d'aider des gens blessés. La Bible nous dit qu'on peut aider l'autre à ôter la poutre ou la paille qui est dans son œil, plus précisément en ôtant la poutre qui est dans le nôtre. C'est un principe. Vous me direz, oui, mais il semble quand même qu'un tel, puis un tel, bien que leur vie personnelle n'est pas au beau fixe, font un merveilleux travail pour Dieu. Eh bien, moi, je crois que c'est un leurre. Ce leurre est exprimé par Christ dans ce passage bien connu, Matthieu 7, 22, 23. Beaucoup me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé, par prophétie, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Et le Seigneur répond, je vous le dis, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. Waouh! En d'autres termes, il leur dit, vous avez fait des choses pour moi, bénéficiant à la rigueur de mon onction, puisque Dieu ne se répand ni de ses dons ni de son appel. Mais votre vie privée, dans votre vie privée, vous ne me connaissez pas. Alors nous avons pris l'habitude aussi d'être impressionnés. Vous savez, si quelqu'un fait un miracle, on est vite impressionné, on a l'impression parce qu'il a fait un miracle que sa vie est en accord avec le miracle. Moi j'ai connu un homme de Dieu qui me disait, l'après-midi je commettais un adultère, le soir il y a un aveugle qui recouvrait la vue. Parce que Dieu est plein de compassion. Et lorsqu'on s'éloigne de lui et qu'on commence à s'éloigner de ses voies, il ne nous retire pas son onction du jour au lendemain. Alléluia, il est plein de compassion, plein de miséricorde. Il dit de Jézabel, je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Dieu est bon, alléluia, et heureusement pour chacun de nous. Et donc la meilleure façon de savoir quels sont les fondements d'une personne, c'est pas tant ce qu'il va faire d'exceptionnel, parce que ce sera peut-être la seule chose d'exceptionnel qu'il va faire de toute sa vie, et c'est ce jour-là que je tombe sur lui. C'est ce qu'il vit à la maison, c'est ce qu'il vit dans sa relation avec les gens, dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, regardez les épîtres. Nous, on parle de combat spirituel, monter sur les montagnes, lier les démons, mais les épîtres, ça nous parle de combat spirituel, mais il se déroule où le gros de ce combat spirituel? Il se déroule dans les relations des gens les uns avec les autres. Est-ce que vous avez lu les épîtres? Vous lisez la Bible ici? Rassurez-moi. Ah, dis donc, tu ne leur enseignes pas à lire la Bible? J'en ai mené une, hein? Et vous voyez que Dieu insiste, l'apôtre Paul, les apôtres insistent énormément dans les relations entre les gens. Ils nous disent comment on doit se comporter les uns à l'égard des autres afin de ne pas laisser de prise à Satan. Ça, c'est du combat spirituel. La vie de tous les jours et la manière dont on se comporte, ça, c'est du combat spirituel. Après, si Dieu nous appelle à monter sur une montagne, on fera parir les démons alors. J'ai trop vu d'hommes de Dieu respectés par beaucoup, mais dont les enfants sont blessés au plus profond d'eux-mêmes parce que leur père leur a fait vivre tout au long de leur enfance. Des hommes qui veulent guérir les cœurs brisés alors que leur propre femme est une plaie ouverte. Des femmes dans le ministère dont le mari leur sert de chien de compagnie. Alors, ce que je dis ce soir, il faut que ce soit bien clair, alléluia. Les gens qui vont tenir le coup dans les temps dans lesquels nous entrons, alléluia, sont ceux qui seront les mêmes à l'église qu'à l'extérieur. Amen. Et ça, ce sont les adorateurs que Dieu cherche. Qu'il adore en esprit et en vérité. Il adore dans la vérité. Et ils sont conduits en esprit dans toutes les affaires de la vie. Parce que le diable est attiré par les prises qu'on lui donne. Si tu es dominateur dans ton couple, tu vas être influencé par Jézabel dans l'église. Si tu es coléreux, tu seras coléreux avec les gens de l'église. Enfin, je sais que vous n'avez personne ici comme ça, mais nous en avons quelques-uns à Toulon. On vous les échange, si vous voulez. Ce qui caractérise beaucoup de gens, et spécialement l'esprit de Jézabel, c'est de vouloir être reconnu officiellement alors que l'on n'est pas à même d'exercer l'autorité que l'on revendique. C'est pourquoi alors on doit user de ruses, de manipulations pour obtenir des gens une soumission
qu'ils ne nous accorderaient pas sur le critère du respect qu'ils ont pour nous. Car le respect qu'on a pour une personne, en général, on l'a en fonction de ce qu'on la voit vivre dans la vie de tous les jours. Donc, il y a un décalage chez les gens animés par cet esprit et par certains autres aussi. Jézabel voulait régner et était une femme insoumise à son mari. Donc elle avait inversé la vapeur. C'est son mari qui lui était soumis. Donc sa vie personnelle était un contre-témoignage à l'autorité qu'elle voulait manifester. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul était déjà confronté à cela. Parce que les Corinthiens recevaient de faux apôtres sur le seul critère d'être impressionnés par eux, alors que leur comportement à l'égard des gens était contraire à l'esprit biblique. D'ailleurs, ils étaient durs avec les gens. Mais comme c'était des beaux parleurs, les gens étaient impressionnés par eux. Et subissaient de la part de ces faux apôtres des choses qu'ils n'auraient jamais accepté de subir de la part de Paul, le vrai apôtre. Donc dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, eh bien nous devons veiller aux gens que nous recevons, nous devons veiller aux gens qui vont prendre la parole, parce que les âmes sont précieuses, nous devons veiller à toutes les paroles qu'on prétend venir de Dieu. D'ailleurs, c'est l'apôtre Paul qui nous dit de le faire. Vous savez, si on a certaines règles dans notre vie personnelle et dans notre vie d'église, on risque rien. Même dans notre couple, moi, je veux pas que ma femme croie, chaque fois que je lui dis, je crois que Dieu m'a parlé, je veux qu'elle analyse tout. Je veux pas envoyer ma famille dans une galère. Et chaque fois qu'elle me dit, je pense que Dieu m'a dit cela, ben, j'ai confiance en elle, mais j'analyse pour savoir si ça vient de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est pas un manque de respect, cela. C'est simplement ce que la Bible nous dit de faire. Donc n'importe quel grand prophète qui vient vous dire « Tu dois accepter ce que j'ai dit parce que je suis prophète de l'Éternel », il ne respecte pas les règles, donc il n'a déjà pas le droit de prophétiser dans ton assemblée. Il y a des règles. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, vous pouvez avoir le meilleur et plus grand prophète de tous les temps. S'il se lève un jour du mauvais pied et qu'il donne la seule prophétie de toute sa vie et qu'elle tombe sur vous, c'est embêtant. Et parfois, on dit parce qu'il a eu du succès la semaine passée, parce qu'il, eh bien, je vais accepter tout ce qu'il va dire. Non. Chaque jour, alléluia. Je dois trier. Alors moi, je crois beaucoup à l'esprit prophétique, et je crois que Dieu veut développer de plus en plus l'esprit prophétique, un esprit qui est supposé nous élever, nous tirer vers le haut, alléluia. Mais je suis très méfiant avec une grande catégorie de gens qui se prétendent prophètes aujourd'hui au sein du corps de Christ. Très, très prudent. Parce que c'est la Bible, d'ailleurs, qui me demande d'être prudent. Amen. Vous savez, moi, je discerne plusieurs formes de prophétie, parfois, auxquelles on s'est habitué. Vous avez la prophétie au café. Vous connaissez la prophétie au café? C'est le gars qui n'a pas eu son café le dimanche matin avant de venir au culte. Il y a des gens, quand ils n'ont pas leur café, je vous rassure, j'en fais pas partie, quand ils n'ont pas leur café, ils sont vraiment de mauvaise humeur. Et le gars, il arrive, il est en colère, il est mal, il voit les gens qui dansent, qui louent Dieu, et ça l'énerve! Et donc, il croit que, il confond ses pensées avec les pensées de Dieu, il croit qu'il prophétise, il dit, cessez vos danses et vos cris qui irritent le Seigneur! C'est pas le Seigneur qui est irrité, c'est lui! Donc, ne lui en voulez pas, vous le sortez du culte, vous l'amenez au troquet d'à côté, vous lui payez un café, vous le ramenez. Ah, si, après le café, souvent, il y verra plus clair. Vous avez aussi des prophéties à la choucroute ou à la pizza. C'est le gars, la veille, il a trop mangé de choucroute ou de pizza, et il a mal digéré toute la nuit, et il arrive au culte le dimanche matin, et il est lourd. Et au moment des prophéties, il pense que Dieu parle, il dit, « Mon peuple, tu es alourdi !» Mais c'est pas le peuple qui alourdit, c'est lui! C'est son problème! Il y a des tas de gens, je suis sûr, ils prophétisent leurs problèmes aux autres! L'exemple le plus extrême que je connaisse, c'est une personne qui est rentrée dans une assemblée qu'il avait quittée et qu'il a prophétisé que des gens allaient mourir. C'est lui qui est mort la semaine d'après. Non, il avait prophétisé juste, mais il s'était trompé de personne. Alors je crois qu'on a tous le droit à l'erreur, tous le droit de prophétiser. Je crois que dans une église, il faut créer une ambiance où on est assez à l'aise parce qu'on a droit à l'erreur. Mais on a droit à l'erreur à condition qu'on accepte d'être repris. Vous me suivez? Alors des fois, c'est beaucoup plus marrant, comme cette grand-mère qui prophétisait « Mon peuple, dit le Seigneur, je sais que tu passes par une période de crainte. Combien je te comprends, dit le Seigneur, tu as peur, car moi aussi j'ai peur, dit l'Éternel. » Bon. C'est pas grave, ne sautons pas sur la grand-mère pour lui chasser 10 démons, hein. Et voilà, il va falloir rectifier le tir. Et cette autre personne qui, c'était la période de Noël, et prophétiser, c'était bien. Je crois qu'il a pensé qu'il fallait qu'il ajoute quelque chose de la part de Dieu à la fin, et à la fin de sa prophétie, il a dit, Dieu vous souhaite à tous un joyeux Noël! Bon, est-ce que tu peux te tourner vers quelqu'un, peut-être lui dire, tu as réalisé que tu as un cadeau? Tu es là pour tirer les autres vers le haut, pas vers le bas. Si tu reçois un ministère, un don, c'est pour tirer les autres vers le haut. Pas vers le bas. Il ne faut pas fréquenter les gens, même les chrétiens, trop longtemps, qui vous tirent toujours vers le bas. Fréquentez des gens qui vous tirent vers le haut. Les autres, fréquentez-les, mais à petite dose. Nous avons besoin de nous tirer les uns les autres vers le haut. Ils rebâtissaient la muraille, ils s'encourageaient les uns les autres. C'est comme ça qu'on peut construire une église, une vision. Lorsqu'il y a un décalage entre la position d'une personne et sa maturité, cela crée une fausse autorité. Des autorités qui ne sont pas nommées et ne fonctionnent pas selon les critères de Dieu. Des autorités détachées de la responsabilité. Or, nous l'avons dit, la responsabilité doit être indissociable de l'autorité. La responsabilité est indissociable de mettre en pratique le premier, ce qu'on dit aux autres, de mettre en pratique. Donc, nous devons devenir de plus en plus des gens qui prêchons ce que nous vivons et qui vivons ce que nous prêchons. D'ailleurs, c'est embêtant, des fois, on dit des choses, on dit « j'aurais mieux fait de ne pas les dire hein ». On dit, voilà comment il faut se comporter à l'égard de sa femme. On arrive à la maison, on se dit, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Parce que nous avons la responsabilité d'être les premiers à mettre en pratique ce que nous prêchons. Et le peuple que Dieu se lève va se caractériser par cela. Les gens vont enfin pouvoir dire, on voit la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Ça, c'est une prophétie pour les temps de la fin. On voit la différence. Souvent aujourd'hui, ils disent, bon, ils ont les mêmes problèmes que nous, ils ont les mêmes médisances que nous, mais Dieu est en train de renverser la vapeur. Il veut nous enseigner pour qu'on réalise l'importance que l'être corresponde à la parole. C'est pourquoi il est dit de ceux qui veulent servir Dieu, que si quelqu'un aspire à la charge de surveillant, il doit être irréprochable, mari fidèle, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Oh, c'est intéressant ça, parce que c'est indissociable. En voilà le rapport direct entre une vie bien réglée, diriger sa maison et évoluer en place de responsabilité dans le corps de Christ. Et selon Jésus, on est appelé à ne pas laisser faire ceux qui veulent exercer au milieu de nous sans respecter les règles. Quel que soit tout ce qui a marqué sur la carte, là. Vous savez, comme certains Africains, c'est le ministère mondial, international, évangéliste, prophète, apôtre, pasteur. Vous arrivez à la fin de la phrase, vous êtes fatigué. Dans l'Apocalypse 2:20, le Seigneur dit... qu'il faut pas laisser Jézabel faire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel faire. Je sais que dans le passé, j'ai laissé des gens faire. Pourquoi? Par sentimentalisme, pour ne pas utiliser l'autorité que Dieu m'avait donnée. Vous savez, il y a les gens qui abusent de l'autorité. Alors parfois, on sort d'un système babylonien où on a été oppressé par des autorités. C'est le pasteur qui décide de tout, on n'a plus rien à dire, on se fonde dans sa vision, notre vision propre n'existe plus. Ça, c'est un système babylonien. Mais sortant de système babylonien, souvent, on passe à l'autre extrême. Et on se retrouve dans des milieux charismatiques, souvent, des églises libres, où tout le monde veut être le chef. Tout le monde veut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et on oublie que Dieu a placé des oints. Et donc, parfois, ayant été oppressé dans une église babylonienne, on veut tellement pas faire subir la même chose aux autres, qu'on n'utilise pas. Et on se met en porte-à-faux avec Dieu aussi, parce qu'on n'utilise pas l'autorité qu'il nous a donnée, comme Paul qui dit, vous allez voir si je viens vous trouver aux Corinthiens, si je n'utilise pas l'autorité que Dieu m'a donnée. là où d'autres faux apôtres l'utilisaient sans se gêner, alors qu'ils n'en avaient pas. Rappelez-vous, si vous ne prenez pas la place qui est la vôtre, c'est quelqu'un d'autre qui ne doit pas la prendre qui la prendra. Si ceux qui doivent prophétiser ne prophétisent pas, c'est ceux qui ne doivent pas prophétiser qui prophétiseront. Les nouveaux convertis, si ceux qui doivent les entourer ne les entourent pas, c'est ceux qui ne doivent pas les entourer qui les entoureront. Alors il ne faut pas laisser Jézabel faire, c'est comme Lucie, il ne faut pas la laisser faire non plus. Lucifer. Non, je suis fatigué alors, hein. Il y a eu une journée de travail. On passe. Donc nous sommes appelés à travailler avec les gens humbles qui cherchent à servir et non à être servis. Vous savez, dans une église, si vous réunissez des gens dont la priorité n'est pas d'être servi, mais de servir, vous supprimez 90% des problèmes. Quand vous vous retrouvez qu'avec des serviteurs, est-ce que vous me suivez? Quand vous vous mariez et que votre désir, c'est pas que l'autre il vous serve, c'est de le servir, et l'autre est dans la même disposition de cœur, mais pourquoi est-ce que les problèmes prendraient de grandes proportions? C'est impossible. Venons avec un état d'esprit de serviteur. Le Seigneur nous a montré, lui qui était le plus grand, nous a montré le chemin. Ça m'a appelé à servir, ça m'a appelé à être des serviteurs les uns des autres. D'ailleurs, c'est ce qui doit caractériser les ministères aussi qu'on doit recevoir. Est-ce qu'il vient pour servir ou il vient pour être servi? Est-ce qu'il vient pour nous piquer notre fric ou il vient pour qu'on soit béni? Est-ce qu'il vient pour nous donner des prophéties pour montrer à quel point il a un grand ministère ou pour vraiment nous parler de la part de Dieu avec compassion, avec amour, avec vérité? Combien de vies de personnes ont été brisées par des soi-disant prophéties et des soi-disant l'Éternel m'a dit? C'est pourquoi nous devons être affermis dans notre autorité pour que notre vie ne soit contrôlée par personne, sinon par le Saint-Esprit. Vous savez ce que c'est la sorcellerie? Le principe de la sorcellerie, vous savez, c'est pas juste je prends une poupée, je plante des aiguilles dedans. Hein. C'est de pousser quelqu'un à faire, en l'intimidant, en le manipulant, quelque chose qu'il ne ferait pas de sa propre autorité si on ne le mettait pas sous cette pression. Donc, un mari peut utiliser le principe de sorcellerie vis-à-vis de sa femme, une femme vis-à-vis de son mari, un pasteur vis-à-vis de sa congrégation, une congrégation vis-à-vis de son pasteur, un frère vis-à-vis de son frère. Et on peut mettre tous les « l'Éternel m'a dit » et tout « ainsi parle le Seigneur », ça ne va rien changer. Donc nous devons apprendre à analyser toutes choses, à discerner. Alléluia. Donc si quelqu'un vient te trouver et te dit « Dieu m'a dit tu dois te marier avec une telle », tu lui dis « si tu n'as pas parlé à toi, marie-toi toi-même avec ». Ok? Si quelqu'un vient te dire « Dieu m'a dit fais tes valises, tu dois partir en Chine » et que Dieu t'a pas dit de le faire, dis-lui « c'est toi qui pars en Chine, hein? Je te fais ta valise si tu veux, c'est toi qui pars ». On est d'accord? Vous savez pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est poli. Avant de parler à tout le monde, il va d'abord me parler à moi. Et une chose aussi, c'est très dangereux de vivre sous la nouvelle alliance, selon des principes qui géraient l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, on allait consulter le prophète. Sous la nouvelle alliance, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils l'ont à l'intérieur d'eux, sont fils de Dieu. Et quand les prophètes viennent, c'est pour confirmer ce qu'ils ont déjà reçu. Et si ça ne confirme pas ce qu'ils ont déjà reçu, quel que soit le titre, tu as tout à fait le droit de dire « je ne reçois pas ». On est d'accord? Mais c'est important d'enseigner ces choses parce qu'il faut protéger le peuple de Dieu. Des vies sont brisées tous les jours à partir de l'Éternel m'a dit. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça se produisait déjà à l'époque de l'Ancien Testament où Dieu reprochait à des tas de prophètes de faire leur propre vision, de prendre leur propre vision pour les visions de Dieu. Nous devons analyser nous-mêmes ce que nous pensons recevoir de Dieu, sans culpabiliser. Ça ne suffit pas que j'ai une excitation, un jour Dieu me demande, ben je vais attendre que Dieu le confirme. Dieu va me donner 2, 3 témoins, et plus si je lui en demande. Il vaut mieux aller doucement que trop vite. C'est comme conduire une voiture. Quand vous allez trop vite, une fois que c'est rentré dans un arbre, c'est difficile à tout réparer. Par contre, lorsque vous allez un peu trop doucement, c'est vrai que Dieu veut que vous accélériez, mais quand vous en rendez compte, il suffit d'appuyer sur le champignon. C'est moins grave. On n'a pas besoin de passer chez le carrossier. Donc, et je vais terminer, nous sommes appelés à développer les choses prioritaires. Étant donné que le faire va correspondre à la qualité de ma vie personnelle, puisqu'il est dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits, il faut donc privilégier et développer l'être par rapport au faire. D'ailleurs, la faiblesse au sein du corps de Christ, c'est souvent des gens qui sont en panne d'identité. Alors que Jésus nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, soit quelqu'un de déterminé qui sait où il va. Et Jésus, c'était tout sauf, vous savez, souvent on imagine le chrétien comme quelqu'un de faible, qui n'a pas de caractère, qui va... Mais Jésus, c'était tout sauf ça. C'était un homme dans tout le sens du terme. Alors moi, je ne veux pas ressembler au frère un tel ou au pasteur un tel, je veux ressembler à Jésus. Alléluia. Et quand les autres faillissent, ça nous arrive à tous de faillir, au moins mes yeux restent sur mon vrai modèle. Et je ne coule pas avec ceux qui coulent. Ça nous arrive à tous de décevoir quelqu'un, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais déçu personne? Je crois que c'est un serviteur de Dieu qui disait, si je vous ai jamais déçu, je prie que je vais vite vous décevoir. Parce que tant que vous m'aimez, tant que je vous ai jamais déçu, c'est une faible relation, bâtie sur des fondements très faibles. Mais quand on sait s'aimer après s'être tous déçus, là on est en train de construire sérieusement. Mais c'est pour cela qu'un seul ne déçoit jamais, c'est Jésus. Donc, privilégier l'être par rapport au faire. Pour beaucoup, cela passera par développer la conscience de sa propre valeur. Pour d'autres, de leur justice en Christ. Pour d'autres, l'amour des autres, peut-être, ou l'amour d'eux-mêmes. Ce qui entraîne des motivations contraires à celles qui dirigent tant d'enfants de Dieu et qui créent tant de conflits. Parce que sûr de mon appel, sûr de mon salut, sûr d'être aimé de Dieu, sûr de ma valeur propre, conscient de ma justice en Christ, guéri de mes blessures de cœur, de mon passé, je n'ai dès lors rien à prouver. Pas de raison d'être en compétition avec quiconque. Je ne me sens pas menacé par les autres. Parce que rempli d'amour à leur égard, je ne suis plus dangereux pour eux. Car la dernière chose que je veux faire, c'est les blesser ou les asservir. Et quand je suis dans cet état d'esprit, Satan a perdu ses droits. C'est ce que Jésus a dit, il n'a rien en moi. Et l'apôtre Paul nous dit, ne laissez pas de prise à Satan. Parce qu'il faut qu'il trouve des par où passer pour pouvoir passer. Quand un arbre porte des fruits pourris, ses fruits empoisonnent toujours ceux qui les mangent. Donc nous avons la responsabilité de rechercher à porter de bons fruits. Néanmoins, ce n'est pas tant sur le fruit qu'il nous faut travailler, mais sur l'arbre. Parce que comme dit Luc 6, 43, il n'y a pas de bon arbre qui produise un fruit pourri, ni d'arbre malade qui produise un beau fruit. Parfois, on s'est épuisé à chercher à porter de bons fruits, alors que c'est sur le tronc, c'est sur l'arbre qu'il faut travailler. Et de plus en plus, Dieu va nous aider à mettre nos priorités en place. Amen.